Alright, bon ben bonjour tout le monde et bienvenue à Les Gars de Poule, quatrième épisode.
Ouais Dan, j'en ai pas parlé, mais on est quand même, on a pogné notre 200e écoute cette semaine.
Oh, tabarouette, c'est bon.
Faut quand même le souligner.
Sur notre épisode 3 ou notre épisode 1?
Tous les épisodes ensemble, mais quand même. On est au-dessus de 70 écoutes, pas écoutes, personnes qui écoutent, fait que c'est quand même, c'est le fun de savoir qu'il y a du monde qui sont intéressés, puis... Puis en même temps, s'il y en a qui veulent interagir, je sais que sur l'app Anchor, ceux qui l'écoutent sur Anchor, peuvent envoyer des messages audio directement. Fait que ça peut être une petite nouveauté intéressante. Fait que s'ils ont des questions, on peut même après les mettre au montage fait que pour les podcasts d'après. Fait que,
Bonne idée. Ça serait le fun. Laissez-nous des questions, des messages vocaux. On va faire des montages vidéo, comme aux élections. La question de Mme Turcotte de Boisbriand. Est-ce que vous allez faire quelque chose contre les pipelines? On parlera pas de ça, mais écoute bien, on s'en va.
On parlera pas de pipeline, on parlera de hockey.
Non. Le seul pipeline, c'est les pipes. Les pipes, between the pipes. Ça, c'est une expression de hockey. Between the pipeline. Ça, c'est une expression de podcast dans l'Ouest en Alberta. C'est ça, mais...
J'aime ça.
On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de... les deux, on s'est un peu mouillés en début de saison, là, avec chacun nos choix un peu funky. Moi, de mon côté, je me suis mouillé avec Josh Anderson. Toi, tu t'es mouillé avec Kevin Labanc. peut-être faire un petit retour sur nos choix, parce que là, ça nous enlève pas mal de crédibilité pour l'instant.
Ouais, exact. moi, si on y va avec Kevin... Le beau Kevin, c'est celui qui a le plus bas, plus et moins dans la ligue. Il est rendu à moins 9. Il a eu un plus 1 hier, mais quand même, 3 points en ces matchs. Je suis déçu de Kevin.
Oui, on peut pas dire qu'il a commencé sa saison sur le bon pied, le bon Kevin Labanc. C'est pour ça que là, moi, tu vois, je vais te taquiner. Tu sais, je t'avais dit que je ne serais pas surpris qu'il fasse 48 points. Ah, on dirait que je ne serais pas surpris qu'il fasse 48 points encore. Tu sais.
c'est ça, exact. Il y en a 56 l'an passé. Fait que moi, je n'étais pas surpris qu'il pouvait taper le 60. Mais il n'est pas parti pour ça, ça c'est sûr. Puis comment va Josh?
Josh est blessé, il a joué deux matchs, puis il n'y a aucun point en deux matchs. Bon, ceci étant dit, il n'y a aucun point en deux matchs, mais il est blessé, donc on va attendre avant de se prononcer.
C'est sûr. Cette année, on dirait que je regardais le classement des marqueurs, puis il n'y a pas de surprise, il n'y a pas comme de kid qui arrive ou de personne que tu dis « Ah, lui, à part peut-être Shevchenkov, que lui, comme, tu sais, deuxième saison, il a vraiment, là, il a ouvert les jets solides. Mais sinon, c'est tous les gars qu'on pense qu'ils vont être là à la fin de l'année aussi.
T'as tout à fait raison, le top 10, c'est vraiment des gars qui sont établis. Par contre, après ça, là, je trouve ça intéressant. T'en as deux présentement en date où on se parle du 17 octobre. Le 11e, c'est James Neal et le 12e, c'est Anthony Manta. J'aimerais ça qu'on parle peut-être des deux, mais peut-être plus d'Anthony Manta dans un premier temps parce que James Neal, j'y crois encore pas tant que ça là, au retour de James Neal. Là. On dirait que je vais me garder une petite réserve. Là.
Il joue avec qui, James Neal?
Ben, c'est ça, c'est exactement.
Ça va, est-ce qu'il fera peut-être, il fera pas 100 points, mais. Il va quand même avoir une sacrée bonne saison, je crois. S'il se blesse pas, je vois pas pourquoi il jouerait pas toute l'année avec lui. Là. Ça a tout le temps été un scoreur, Neal. Puis c'est peut-être le changement de décor, il a fait du bien. Puis je pense que ça ferait du bien à tout le monde de jouer avec McDavid aussi. Là.
Mais j'ai l'impression...
Le gars, il sait comment scorer des buts.
Ouais, mais tu sais, là, présentement, il y a 8 buts en ce match. Évidemment, il marquera pas 90 buts cette année. Là. Les choses vont se calmer pour lui. Moi, je m'emballe pas trop avec James Neal pour l'instant. Je regarde sa tendance, ses dernières saisons. Même, tu sais, sa dernière saison a été catastrophique, mais ses deux saisons précédentes, c'était pas en haut de 50 points. Oui, il l'a fait McDavid, mais moi, je pense que dans un beau... dans le meilleur scénario, il pourrait peut-être frôler les 55 points, les 30 buts, mais je le vois pas avoir une saison de 80 points. Je serais bien surpris. Je pense que
la différence, c'est qu'il a jamais joué. Il a jamais joué dans sa carrière avec des joueurs comme il joue cette année sur sa ligne. C'était tout le temps un gars de deuxième ligne qui allait en scorer des bonnes saisons, une trentaine. Mais il a jamais été sa top line. Fait que là, je veux dire, il y a personne là, à Edmonton. Fait qu'il joue avec les meilleurs. Puis Kalik, ça il produit. Là. Je pense que en but, c'est ça. Il aura pas. C'est pas un fabricant de jeu, c'est un scoreur, ouais. Vraiment. Là.
À sa première saison.
Est-ce qu'il va avoir sa meilleure saison en termes de buts?
C'est 40 buts.
Peut-être. Tu sais, c'est...
Sa meilleure saison en termes de buts, ouais. C'est avec Pittsburgh en 2011-2012. Je sais pas par cœur, mais d'après moi, il devait jouer avec soit Sidney ou Malkin. Il a fini avec 81 points, ouais. 40 buts. Mais c'était un plus jeune James Neal. Là, okay. Maintenant, il est rendu à 32.
Non, je comprends. Mais quand même, il va... Je pense qu'il peut... 55, je pense que c'est peut-être un petit peu vers la baisse. Je donnerais peut-être un 10 points de plus, je okay. crois, là, en okay, étant conservateur. Même, ouais.
Tu crois en James quand même plus que moi. Puis ouais. Je respecte ça, man. Je respecte ça. Je voulais parler d'Anthony Manta. Lui, dans son cas, c'est vraiment intéressant. Là. À date, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'on appelle une breakout year qui est en train de... C'est peut-être le Anthony Manta qu'on attendait, qui se pointe finalement le bout du nez.
Je suis d'accord. Lui, sa job pour qu'il soit constant, ça va être... je pense que c'est plus une job mentale, ce gars-là. Il a tout le temps eu tous les atouts, mais ça va être de garder le. Justement, là, quand il va coller 2-3 games moins bonnes, est-ce que là, il va partir sur un slump ou il va être capable de briser ça rapidement? Je pense pour connaître un petit peu le gars, lui, dans le fond, là, je le connais depuis qu'il joue Bantam. Puis ça a tout le temps été un petit peu okay. ça, son je ne veux pas dire son problème, là, mais quand, des fois, c'est plus difficile. Les périodes difficiles sont plus difficiles. Puis c'est juste, s'il est capable, il a sûrement il a pris de la maturité, on s'entend. Là, puis s'il est capable de minimiser justement ses slumps, il peut scorer beaucoup de buts. Là, parce qu'il a tout. Là. Quelque chose qui a donné confiance, je crois, c'est les championnats du monde l'an passé. Je ne sais pas si tu l'avais vu jouer aux championnats mm-hmm. du monde.
Je l'ai pas vu jouer.
Il avait été dominant. Là. Il était. Ça avait été là, la part des matchs du Canada, ça avait été le meilleur joueur. Puis d'après moi, ça lui a comme donné, on dirait, une confiance pour le début d'année. Il s'est dit, crime, je peux scorer autant que les meilleurs joueurs dans ce ligue-là. Fait que on le voit avec son début de saison. Là.
Puis pour l'instant, il y a 9 points en 6 matchs. Donc, moi, tu vois, c'est pour ça qu'on revient à James Neal. Moi, je prends Anthony Manta. Lui, cette année, je ne serais pas surpris qu'il y ait une saison de 80 points. Si j'en ai à choisir un des deux là, à la fin de la saison, lequel va avoir le plus de points, on dirait que je mets mes jetons sur Anthony Manta cette année. Là.
Ouais, c'est une bonne. C'est un bon choix, c'est un bon duel, je te dirais. Avec les deux sont présentement ouais. au même nombre de points. Les deux ont fait beaucoup plus de buts que de passes. Fait que ouais, ça serait bon de voir. Quoique, gars, là, c'est un scoreur Manta. Pour qu'il tape le 80 points, il va falloir qu'il ait plus de passes, on s'entend. Là. Parce qu'il ne pourra pas finir avec. Je pense pas qu'il ait 70 buts non plus. Là. Fait que c'est ça aussi. Là. C'est, pour avoir au-dessus d'un point par match, d'habitude, tu as plus de passes que de buts, là, en général. Là. Il y a juste Dreisaitl l'an passé qui a eu 50-50. Là. Ça fait que les ouais. autres qui ont tapé le 100 points, là, l'an passé, Kucherov, il y a 87 passes. Là, fait que,
Il faut que
tu ramasses des passes pour ramasser au-dessus d'un point par match. Là,
je peux pas te contredire là-dessus. Ouais. Peut-être 80 points, mais dans les 70 points, je serais pas surpris. Puis l'année passée, c'est un gars qui a quand même eu 25 buts, 23 passes. L'autre année d'avant, 24 buts, 24 passes. T'sais, ça se peut qu'il fasse 40-40. 40 buts, 40 passes pour Anthony ouais. Manta cette année. Je serais pas surpris. T'sais, tu te dis, hey, le gars, il est capable.
C'est atteignable.
Ouais, c'est atteignable.
Ouais, on va y aller avec 40-40, ça, c'est, ça serait une, toute une saison pour Manta. On lui souhaite. S'il nous écoute, on lui souhaite comme on avait souhaité à Joe Drouin. Puis...
Oui, je suis content que tu reviennes là-dessus parce que c'est vrai qu'on avait envoyé beaucoup de love à Jonathan Drouin. Puis à Montréal, on est quand même un peu fou. Le camp d'entraînement, on s'est emballé. Certaines personnes à la radio disaient qu'il était en train de se sortir de Montréal, qu'une transaction était imminente. Puis là, tu sais quoi, c'est ça la magie de Montréal. 4-5 matchs plus tard, Jonathan Drouin, il préparait la parade. Donnez-y le Conn Smythe, c'est la plus belle chose qui est arrivée depuis Guy Lafleur. Faut lui donner du crédit, je pense, à Jonathan, parce que il est arrivé prêt. Je pense qu'il est conscient qu'il y a eu un mauvais camp d'entraînement, mais dès le premier match de la saison, ce gars-là est arrivé prêt pour jouer au hockey.
Il a mis la switch on. Mais est-ce que tu as vu les matchs un peu des Canadiens? Tu l'as-tu vu jouer?
Oui, je l'ai vu jouer pas mal, ouais.
Bon, ben moi, c'est ça qui me donne confiance parce que il y a encore des pertes de rondelles, il y a encore des revirements, mais son intensité est dans le tapis, là. Fait que ça je pense c'est vraiment ça que ça qu'il a compris, c'est que tes erreurs quand tu es intense, ils vont passer plus facilement. Tu sais, le coach, il va quand même te remettre parce que il perd la rondelle, il est enragé pour la retrouver, ce qu'il faisait pas avant. Avant, il perdait la rondelle, puis c'était comme, bon, on retourne au banc tranquille. Mais là, il est tout le temps le pied dans le fond. Puis un gars avec du talent comme ça, quand tu travailles fort, ben c'est là que les choses se passent. C'est là qu'il va produire beaucoup de points.
T'es pas un choix de troisième overall pour rien. Tu sais, en 2000, je me souviens plus quelle année, son draft exactement, 2013, si je me trompe pas, là, mais t'es pas troisième overall pour rien. Puis tant mieux si ça débloque dans le cas de Drouin, parce que tout ce que ça fait, c'est aider le Canadien de Montréal, puis c'est bon pour tout le monde. J'aimerais te parler d'un autre joueur qui connaît un début de saison très intéressant. Erik Ola, le Finlandais de 28 ans. Joueur qui n'est pas très, très connu du grand public parce que l'année dernière, il était pour les Golden Knights. Il a joué juste 15 matchs. Mais la saison d'avant, en 2017-2018, il a fait 55 points avec les Golden Knights. Lui, c'est un joueur qui, si je ne me trompe pas, n'avait pas été protégé par le Wild. Il avait connu 4-5 saisons là, un peu... il n'avait rien cassé avec le Wild. Puis il a eu son breakout, sa breakout season, 55 points il y a 2 ans avec les Knights. Puis là, il a comme une nouvelle chance cette année avec les Hurricanes. Puis pour l'instant, il a saisi, il a 7 points en 8 matchs. C'est un joueur que moi, j'aime beaucoup. J'ai pensé le sélectionner, puis j'ai choqué. Mais je suis content de voir son début de saison. Je ne sais pas si tu connais un peu ce joueur-là.
Oui, ben justement, je l'ai regardé quand les Hurricanes, ils ont joué contre le Canadien et puis je l'ai revu un autre match aussi. Puis là, j'ai pu l'analyser un peu. Pour vrai, c'est un gars, il a du talent. Il est capable de la mettre dedans, il a des bonnes mains. Mais surtout, c'est un gars intense qui amène la rondelle au filet. T'as des gars de même à un moment donné, ils ont la rondelle dans la zone adverse, ils ont un but, c'est de l'amener au filet. T'sais. Lui, il se casse pas la tête. C'est comme ça que tu fais des points au hockey. Si t'amènes la rondelle au filet, peu importe comment, ben les points vont venir, puis les buts vont venir. Fait que c'est un gars comme ça, tu sais, qui a pas un talent incroyable, mais il fait les choses bien, il fait les choses simples. Puis là, ça a l'air de fonctionner pour lui en Caroline, tant mieux. Hein,
un autre qui retient mon attention, c'est avec Toronto, c'est Ilya Mikheyev.
Ouais.
Un gars qui, on parlait de joueur intense, ça, c'est un autre, ça, il arrive de la KHL. Et c'est un joueur, moi j'ai eu la chance de le voir jouer un peu, puis il m'a quand même impressionné. C'est un gars qui est excessivement rapide, très intense. Je sais pas à quel point ça va rester comme ça toute la saison.
Ouais, c'est sûr. Avec qui il joue sur sa ligne? Parce qu'il n'est pas sur les deux premières, hein, je pense.
Mais pour l'instant, selon NHL Daily Faceoff, il joue avec Kerfoot et Kasperi Kapanen, justement. C'est Trevor Moore qui a pris la place sur le deuxième trio avec Tavares et Marner.
OK.
Puis je me suis intéressé à Mikheyev parce qu'on parlait de Kasperi Kapanen plus tôt dans les autres podcasts. Puis toi, tu l'aimais vraiment beaucoup, puis t'as influencé mon choix de le prendre dans mon propre pool. Je regrette pas ma décision, mais je regarde un gars comme Mikheyev qui sort de nulle part, puis je me dis, aïe, tu sais, des fois, dans la justement, là, quand t'es on the bubble, d'être sa deuxième, sa troisième. T'sais, le spot est ouvert quand même encore un peu. Là. La preuve, c'est que là, présentement, c'est Trevor Moore qui joue avec Tavares puis Marner.
C'est ça.
En plus, des fois, Tavares-Marner, un duo comme ça, des fois, de trouver la troisième roue qui complète le carrosse, c'est pas nécessairement un joueur de talent. Des fois, ça prend un hard nose, des choses comme ça. Fait intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Qui va avoir plus de points à la fin de l'année entre Mikhaïev ou Kasperi Kapanen?
Je vais encore avec Kapanen.
Ouais. Moi, c'est juste que j'ai un doute.
Mais j'écoutais Bob Hartley parler de Mikhaïev, puis il avait vraiment des bons mots sur lui parce qu'il l'a coaché l'an passé, ouais. En fait. Puis justement, il a poussé pour qu'il aille dans la Ligue nationale. C'était intéressant. Je me dis... Le gars est en Russie, il dit à un Russe d'aller jouer dans la Ligue nationale. Je sais pas si son organisation l'a su, mais il avait l'air à y donner. Il disait ça un peu comme mon grand, c'est ton rêve. Si tu veux y aller, vas-y. Je t'encourage là-dedans. Fait que mais l'an passé, 45 points en 62 matchs dans le KHL. C'est une ligue plus défensive, là, on s'entend. En comparaison, Darnay jouait dans la même équipe, il avait 28 points en 58, puis Mikhaïev il a 45 en 62. Fait que c'est sûr que Darnay rajeunit pas, mais quand même, c'est un gars qui a joué dans le national puis qui a quand même ramassé un peu de points. Là, mais,
fait que si jamais vous avez une chance de regarder un peu plus attentivement Ilya Mikhaïev, il y a peut-être quelque chose qui se cache sous ce joueur-là, peut-être qu'il pourrait surprendre.
À mettre sur la liste des joueurs à surveiller, ça c'est sûr.
Hey, en terminant, je finirais ça avec deux Québécois qui retiennent mon attention. Des fois, on termine en parlant du Canadien, mais là, regarde, on va parler de deux Québécois, deux produits locaux. Samuel Blais et Anthony Beauvillier, qui ont des bons débuts de saison. Dans le cas de Samuel Blais, avec les Blues, il s'est fait connaître l'année passée avec une belle playoff run. Là, il y a 5 points en 6 matchs, dont un très beau but qu'il a marqué au Centre Bell l'autre jour quand les Blues étaient de passage. C'est quoi ton opinion par rapport à Samuel Blais? Est-ce que tu y crois pour en termes de points cette année?
Ah, c'est dur. Bonne question. L'an passé, juste, as-tu ses stats devant toi présentement? Ou...
L'an passé, il n'a pas connu beaucoup de points. Il a eu une saison très peu productive en termes de points. C'est un gars qui a terminé avec 4 points en 32 matchs l'année passée avec les Blues. Mais il faisait la navette avec la Ligue américaine, tout ça. C'est vraiment en série qu'il s'est... Mais tu sais, écoute, encore là, en série, il a fait 3 points. T'sais, mais il était sur le gros trio. Il joue avec Perron puis O'Reilly.
Il amène beaucoup.
T'sais, moi, je me souviens d'un but où un but important, que t'as le gros Sammy Blais qui est rentré, qui a donné un gros body check, qui a ramassé la rondelle, bing, boom. Puis là, après ça, Ryan O'Reilly a fait opérer la magie, une passe à Perron. Je pense qu'il n'a même pas récolté de passe là-dessus, mais tu vois comme, wow, regarde, c'est lui qui a parti le jeu. Là. Fait que j'ai l'impression que c'est un gars qui a compris son rôle. Il est 6 pieds 2, 205 livres, puis c'est un gars qui sait, qui a compris, regarde, moi, dans la Ligue nationale, je pense, mon pain et mon beurre, ça va être de rentrer dans le tas, puis brasser la cabane, tu sais, puis avec tout ça, ben il y a quand même un sens offensif, il y a quand même des mains, il y a un bon lancé, c'est un gars qui est capable de faire des points, donc, moi, je sais pas, au début de l'année, vu ses statistiques, puis tout ça, je me suis dit, tu sais, je l'aime comme joueur, mais je me suis dit, est-ce que c'est un gars qui va faire ne serait-ce que 40-50 points, puis là, moi, je pense, j'y croyais pas, mais là, à la lueur de son début de saison, 5 points, 6 matchs, je me dis, hey, possible qu'il fasse 50 points, tu sais, 45 points, 20 buts, 25 passes.
Ouais, je suis d'accord avec toi, il peut vraiment atteindre ces chiffres-là. Tu sais, c'est comme tu dis, le gars, il a compris son rôle, puis il le fait bien. C'est... Puis t'as des gars de même, par contre, c'est ça, c'est le jour où il jouera plus avec ces joueurs-là, ou le jour où il va changer d'équipe, ben là, peut-être que oups, là, ça va tout changer. Mais là, présentement, il est dans une chaise qui lui fait bien, puis il peut produire dans cette chaise-là, puis c'est cool à voir, tant mieux, hein, c'est toujours le fun d'avoir des Québécois un petit peu sortis de nulle part. Ce gars-là, il n'y a pas grand monde qui le savent, mais son année de draft en 2014, il avait commencé l'année dans le Midget 3.
Ah ouais, hein?
Ouais, fait qu'il avait commencé l'année dans le Midget 3, puis à moitié de l'année, il est monté à Victo. Puis c'est là qu'ils l'ont drafté. Fait qu'il a juste eu 25 matchs, puis il avait 14 points en 25 matchs, son année de draft quand même.
Ouais,
fait que
c'est
le dépisteur des Blues. Il a eu la main heureuse, là. Il a bien vu, là, parce que l'échantillon n'était pas gros. Je pense pas que le dépisteur des Blues l'a vu Midget 3, on s'entend, là. Fait que c'est, il a vu de quoi, puis crème, après ça, on voit, là, il joue, il a son rôle, puis il produit, fait que, en espérant que ça continue comme ça pour lui.
Un autre que j'aime bien, puis que j'ai eu la chance de côtoyer un peu aussi, Anthony Beauvillier, qui connaît un bon début de saison. Ça, c'est un joueur que j'aime, tu sais, vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est beau à voir jouer, il est intense.
Ça me surprend pas, lui.
Ben c'est ça, parce, mais moi ça me surprend pas, mais l'année passée il avait quand même fait 28 points, puis c'est l'année passée qu'on se disait hey, il va peut-être partir cette année, tu sais, mais il a régressé au lieu de continuer de progresser.
J'ai coaché contre dans le midget espoir Beauvillier, puis il y en a une couple, tu sais, des gars que, oh, tu sais, on parlait de Mathieu Joseph au premier épisode. Ben, c'est un peu. J'avais coaché contre aussi, puis c'est un peu dans le même style. Là. C'est un gars que tu vois qu'il y avait les atouts pour se rendre loin, là, se rendre là. Il y avait le talent, puis surtout, il y avait la hargne, il y avait le.
Ouais.
C'est ça que ça prend, tu sais. Juste le talent, ça t'amène nulle part. Mais ce gars-là, il avait aussi l'intensité, puis tu voyais que. Tu sais, la petite étincelle, puis tu dis, OK, lui, il manquera pas sa shot. Puis lui, quand il va débloquer, là, il peut pogner des bons stretchs, là. Il va avoir une belle carrière, je pense. Il va avoir une belle carrière
Beauvillier. Moi, je me mouillerais pas jusqu'à dire que c'est un joueur d'élite qui va avoir des saisons de 90 points, 100 points. Tu sais, je pense pas qu'il est dans cette catégorie-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui pourrait avoir, disons, 6 années d'affilée de 50 à 60 points. Tu sais, ouais. Je pense que c'est un gars qui peut aller reacher ça. Là, tu sais,
Ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Puis des bonnes saisons, je pense qu'il va pouvoir en mettre pas mal dans le but aussi. Là. Ça dépend encore. Quand tu joues avec des bons joueurs, là, ça va aider. Est-ce que tu sais, ça, je ne sais pas par contre, est-ce que tu sais s'il joue avec Barzal?
Non, c'est ça. Il joue avec Brock Nelson puis Michael Dacol.
OK.
Dal Coley. Non, intéressant à suivre ça. Je suis content pour lui parce que l'année passée, après une année un peu plus difficile, cette année, là, s'il peut prendre un certain rythme en termes de production de points, on lui souhaite. Fait que ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, mon Phil.
Moi, bon, on a fait le tour des joueurs qu'on voulait parler, c'est bon.
Ben oui, puis après une semaine, après deux semaines comme ça d'action dans la Ligue nationale, ben on va continuer à suivre ça. Puis on va vous revenir pour un autre podcast un petit peu plus tard. En suivant toujours les activités de cette ligue qui est merveilleuse. Hein? On a du beau hockey, on est chanceux, on est choyé.
C'est une belle ligue.
Non, mais on a du beau hockey. Je trouve que la Ligue nationale a pris une belle tournure. Tu sais, dans les années 90, début 2000, honnêtement, avec le recul, quand on y pense, c'était des années quand même assez dures. Là. Le jeu était plate.
Ouais.
Là, on a de l'action, on a des buts. Il y a moins de batailles. Il y a comme plus de positif quand même, je trouve, les dernières années.
T'as-tu remarqué qu'il y a moins de vieux bonhommes qui disent « Ouais, dans le temps, ils disent plus ça. Hein, ils réalisent que c'est fort là, cette année. » C'est fort ces temps-ci. Là,
ouais,
okay, là. T'en as moins. « Ah ouais, dans mon temps. » Non, non, non. Ta gueule, là, c'est vraiment meilleur maintenant. Là.
Pour vrai, ouais, vraiment. Puis je pense que, tu sais, dans le futur, on va regarder les années comme 2010. Là, puis je pense qu'on va pouvoir dire que c'était des belles époques. Tu sais, un peu comme les années 80, là, dans le sens où, wow, les goalers étaient tout croche, mais il y avait, c'était excitant, c'était beau à voir jouer. Je pense que les années 2010, on était un peu là-dedans. Là, tu sais, veux pas, un gars comme Alex Ovechkin, là, je déroge un peu, là, mais quand tu regardes la carrière d'un gars comme Alex Ovechkin, là, ça me donne quasiment des frissons. Tu sais, il a tellement une carrière incroyable, ce gars-là. Là. Ça a ni queue ni tête.
C'est dans les tops. Là. C'est ça qui arrive, c'est qu'on a tout le temps tendance à penser, parce que là, à cause que c'était sur une tendance plus défensive dans les années au début 2000, on se dit, ouais, OK, c'est bien beau, mais Crosby, Ovechkin, dans l'histoire de la Ligue, ne seront pas capables d'atteindre des chiffres aussi élevés que les tops qu'on a eu avant, mais crime, ils sont en train de le faire là. Fait que c'est ça qui est le fun à voir. Là. C'est des machines, des phénomènes, puis ça s'en va direct au temple de la renommée dès qu'ils prennent la retraite. Fait que c'est,
Yes. Bon, ben les amateurs d'hockey qui nous suivent, qui écoutent notre podcast jusqu'au bout, on vous dit merci, puis partagez-le avec vos amis qui trippent sur le hockey, puis redonnez-nous du feedback si vous aimez ça, si vous avez des commentaires. On est bien partant de vous entendre, d'avoir votre feedback là-dessus. Fait que merci à tout le monde, merci à toi Phil.
Yeah, yes sir, mon Dan.
Bye bye.